C'est rassurant.
C'est pour ça que j'enregistre, parce que des fois, je m'évade un peu, puis là, il faut que je me ramène. C'est bon. Alors, voilà. De retour à Oléré vous informe, on parle du manque d'oxygène dans les océans. On en a fait état il y a quelques instants. Voyons maintenant quels sont les impacts qui peut se produire suite à ce manque d'oxygène dans l'eau au niveau de la faune ou de la flore marine. C'est Denis Chabot qui est avec nous. C'est un chercheur en écophysiologie à l'Institut Maurice Lamontagne. Bonjour.
Bonjour.
Ben, peut-être préciser votre titre, là, chercheur en écophysiologie. Qu'est-ce que ça fait?
L'écophysiologie, finalement, c'est la science, c'est l'étude de comment l'environnement influence le bien-être, la physiologie des animaux. Puis dans mon cas, ben, c'est des animaux marins.
OK. Alors là, votre collègue nous a dit tout à l'heure qu'on a des manques importants d'oxygène, particulièrement dans l'estuaire du Saint-Laurent, aussi dans le golfe, près de Gaspé. C'est à partir de, bon, à peu près 175 mètres là, de profondeur, et ça suit. Quels sont les impacts, justement, que ça peut produire sur notre faune là, marine là, et les espèces qui risquent d'être touchées, là?
Il y a une quantité minimale d'énergie que les animaux doivent produire juste pour rester en vie. Chez les humains, on appelle ça le taux métabolique basal. Vous avez peut-être déjà passé des tests pour mesurer et faire mesurer votre taux métabolique basal. Chez des poissons et des crustacés, on fait ça avec un animal qui est calme, qui est immobile, qui est à jeun, fait qu'il n'investit pas d'énergie pour digérer un repas. Et on appelle ça le taux métabolique standard. Et la raison pour laquelle c'est important, c'est que c'est obligatoire pour un animal de produire au moins cette quantité-là pour demeurer en vie. S'il n'est pas capable, il peut peut-être survivre une question de minutes ou d'heures, mais il risque l'asphyxie à court terme. Puis à l'autre extrême, les animaux ont une limite, une quantité maximale d'énergie qu'ils peuvent dépenser. Et la plupart du temps, ils se promènent à quelque part entre le minimum requis pour rester en vie et le maximum. Parce qu'ils ont besoin de se déplacer, ils ont besoin de manger, de digérer, de grandir. Fait qu'il faut qu'ils aillent au-dessus du minimum. C'est un peu comme votre voiture. Si vous voulez avoir une voiture qui est capable de faire du travail, ben il faut que le moteur soit en marche. Elle est au neutre. Donc, elle est prête à travailler, mais elle ne fait rien. Ça vous coûte quand même de l'essence. Puis à l'autre extrémité, la pédale au fond, c'est votre taux métabolique maximal pour votre voiture. C'est rare que vous faites ça, mais elle est capable. Et la plupart du temps, vous êtes à quelque part entre le taux minimum quand la voiture est au neutre et la vitesse maximale.
Donc, chaque espèce a un peu à son taux, dans le fond, c'est ce que vous êtes en train de me dire.
Oui.
Là. Donc,
oui, si on va en bas du taux minimal, c'est la mort pour la plupart des espèces.
OK. À partir de là, on peut se pencher sur les espèces qu'on a chez nous. Puis, qu'est-ce qui risque d'arriver à ces espèces-là? On parlait de la morue, là, parce que on a plus d'informations sur ce poisson, je pense, par rapport au manque d'oxygène et qu'est-ce qui peut se produire dans son cas.
Oui, la morue, on l'a bien étudiée. En fait, le niveau d'oxygène dissous qui est minimal pour cette espèce-là, c'est 21% de saturation. Mais ça, c'est la valeur moyenne. Il y a des animaux qui sont plus sensibles, il y a des animaux qui sont plus tolérants, même à l'intérieur d'une seule espèce comme la morue. Et on a remarqué que certaines morues sont tellement sensibles qu'elles risquent de mourir dès que l'oxygène baisse à 30% de saturation. Et d'ailleurs, quand on regarde nos relevés scientifiques qui sont effectués tous les ans au mois d'août, on ne trouve pas de morue aux endroits où l'oxygène dissous est à moins de 30% de saturation.
Bon, dans le cas de l'estuaire, on parlait là, de Rimouski, puis c'est à 18%. Il n'y a pas de morue dans ce coin-là.
Il n'y a pas de morue dans la partie profonde de l'estuaire. Elle peut y aller. Elle peut, par exemple, passer du côté nord au côté sud. En traversant cette zone-là, elle va quand même survivre plusieurs heures. Mais ce n'est pas un habitat viable où on peut manger, digérer, grandir.
Et même pour la côte de Gaspé, dans le golfe ici face à nous, là, on est à taux de saturation à 30 %. Ça veut dire qu'on est sur la limite, là.
Oui, et c'est pour ça que les morues qui nous restent évite les chenaux profonds. Et on les retrouve sur les bancs, sur les plateaux côtiers, comme à l'ouest de Terre-Neuve et aussi dans le sud du Golfe, autour des îles de la Madeleine. C'est peu profond, donc c'est bien oxygéné et c'est meilleur pour la morue.
Bon, et là, on parle du taux, dans l'exemple de la morue, là, à 30 % elle décède, en bas de 30. Mais qu'est-ce qui se passe avant? Est-ce qu'il y a aussi des impacts avant? Parce que si on a un taux de 40 %, est-ce que ça va avoir un impact sur cette espèce-là aussi?
On va commencer par l'impact le plus évident, le plus frappant. C'est que les morues qui vivent à des conditions d'oxygène dissous qui sont supérieures à leur seuil létal, donc leur survie n'est pas en danger, mais par contre qui vivent quand même en situation d'hypoxie, ben il y a pas suffisamment d'oxygène pour digérer les repas aussi vite qu'elles seraient capables de le faire. Et la conséquence de ça, c'est qu'elles mangent moins parce qu'elles digèrent moins vite et aussi, ben, elles grandissent moins vite. Donc, pour une population, ça peut être assez dommageable quand les individus ont un taux de croissance inférieur à son plein potentiel. Et chez la morue, à partir de 70 % d'oxygène dissous en montant, il n'y a pas de problème pour la croissance. C'est comme si on pouvait caractériser tout ce qui est au-dessus de 70 % comme étant de la normoxie pour la morue. C'est l'opposé de l'hypoxie, c'est une situation normale. Entre 70 et 30, bien là, moins il y a d'oxygène, moins la morue mange et moins elle grandit vite. Et quand on est autour de 40-45 %, ce qui est vraiment pas rare dans le golfe dès qu'on va dans les chenaux profonds, le taux de croissance de la morue est considérablement diminué. Mais on est en situation en ce moment où la population de morue est à un niveau bas. Autrement dit, il y a suffisamment de place sur les bancs pour loger toutes les morues qui nous restent, et c'est ça qu'elles font. Elles ont grandement évité les chenaux et se tiennent sur les plateaux.
Quelles sont les autres espèces qui sont menacées par ce manque d'oxygène?
Sans doute le turbo, le flétan du Groenland, ça c'est une espèce qui vit obligatoirement en eau profonde. Il n'y a pas de, nulle part au monde, il n'y a pas de turbo qui vivent à de faibles profondeurs. Dans notre système à nous, l'estuaire et le golfe, on commence à en voir à peu près à 150 mètres, mais c'est surtout plus profond que ça, donc dans les chenaux. Et ce qui est particulier, c'est que l'estuaire semble être la pouponnière principale pour la population de l'estuaire et du golfe du Saint-Laurent. C'est là qu'on retrouve la majorité des petits turbos. Et nos travaux, pour d'abord déterminer le seuil létal d'hypoxie chez cette espèce-là, ont montré que les petits étaient plus sensibles, plus fragiles que les grands. Fait que les grands, eux, sont capables de supporter en moyenne 15 % de saturation. Mais les grands, c'est 10 % et les petits, plus fragiles, 15 %. Donc, dans l'estuaire, à 18, et on commence à avoir du 17 % de saturation, il n'y a pas une grosse marge de sécurité. Pour ceux qui ne meurent pas, pour ceux qui peuvent prendre du 15 %, il y a moins d'oxygène de disponible pour digérer les repas. Et on risque de voir chez le turbo juvénile ce qu'on a vu pour la morue en hypoxie, c'est-à-dire un taux de consommation de nourriture moindre et une croissance moindre. Mais c'est une espèce qui est bien adaptée à ces conditions-là. Puis, d'après nos calculs, il faut vraiment aller jusqu'à 20 % de saturation. Elle semble encore capable de digérer à la même vitesse que quand il y a beaucoup d'oxygène. Mm-hmm. Mais on est quand même là,
on est à la limite,
selon
là.
Nos calculs, on est sur le bord de la falaise. Ça ne prendrait pas une grosse baisse d'oxygène dissous ou une grosse augmentation de température pour basculer dans un système où là, elle ne pourra pas digérer à pleine efficacité, son taux de croissance va diminuer. C'est un peu ce que nous vivons ces dernières années, hein, ça s'est réchauffé. Et dès qu'on augmente la température de l'eau pour des animaux à sang froid comme ça, on augmente leur besoin en oxygène et on les rend plus fragiles à l'hypoxie. Fait qu'en ce moment, l'eau est un petit peu plus chaude. Il y a, pour empirer les choses, il y a encore un peu moins d'oxygène.
La crevette, est-ce qu'il y a des dangers?
La crevette, habituellement, est aussi à plus de 175 mètres de profondeur, donc elle est exposée à ces faibles teneurs en oxygène dissous. Elle est assez tolérante aussi, comme le turbo, c'est une espèce qui est plus tolérante que la morue. Mais ce qui est intéressant, c'est que les mâles sont plus tolérants que les femelles. Les mâles, ça ressemble un petit peu au turbo adulte. Là, c'est autour de 10-11 % de saturation, leur seuil létal moyen, alors que les femelles, c'est 16 %. Ça veut dire que les femelles qui sont particulièrement intéressantes pour la pêche parce qu'elles sont plus grosses, sont un petit peu plus fragiles. Ce qui les aide probablement par rapport au turbo, c'est que l'estuaire est quand même loge une petite population de crevettes. La plupart des crevettes sont dans le golfe où l'hypoxie est moins sévère. Aussi, contrairement au turbo, les crevettes peuvent aller à moindre profondeur s'il le faut. Mais pour le moment, il y a quand même un petit peu moins de raisons de s'inquiéter pour la crevette que pour le turbo, parce que le turbo, lui, il est prisonnier de la couche profonde. Il ne va pas chercher. Pour toutes ces espèces-là, il reste encore du travail à faire, même la morue, même la crevette. La crevette est probablement la deuxième espèce la plus étudiée après la morue ici à l'Institut Maurice-Lamontagne, parce qu'on a découvert que les eaux hypoxiques sont aussi des eaux acides. Et il faut maintenant vérifier si le fait que les animaux sur le terrain font face à deux stresseurs en même temps, l'hypoxie et l'acidification, est-ce que ça les rend plus sensibles à l'hypoxie? Il est possible que les valeurs de tolérance qu'on a mesurées au laboratoire en ce moment soient trop optimistes parce qu'on a utilisé un seul stresseur. Nous, dans nos travaux, on a utilisé l'oxygène. Commencer à étudier l'effet des deux ensemble chez la crevette et aux températures qui sont les plus favorables à cette espèce, les températures froides, 3 et 6 degrés, quand on utilise un pH qui correspond à ce qu'on pense qui va être la situation à la fin du siècle à cause du réchauffement climatique qui va empirer le problème de pH dans l'eau. Il semblerait que la crevette devient plus sensible à l'hypoxie quand le pH est aussi très faible. Comme je le disais, si l'eau est plus chaude, le taux métabolique s'accélère, les besoins en oxygène s'accélèrent et les animaux deviennent plus sensibles à l'hypoxie.
Je dirais on est bien mal foutu, mais quand même, vous faites de la recherche, alors on verra avec le temps, est-ce qu'il n'y aura pas une possibilité de changer un peu cet état ou ça va empirer selon vous?
Les prévisions à long terme sont pour des eaux profondes plus chaudes, plus acides et moins oxygénées. Mais comme je disais, les animaux aquatiques sont quand même drôlement bien outillés pour faire face à tout ça. Et on pense que chez les poissons, du moins, le pH n'aura pas un gros impact. Alors, c'est surtout le fait que ça va réchauffer et devenir un petit peu plus pauvre en oxygène qui peut être inquiétant.
Intéressant, Denis Chabot, donc chercheur en écophysiologie à l'Institut Maurice-Lamontagne. Merci pour tous ces détails, ces informations très pertinentes.
Ça me fait plaisir, M. O'Leary.